Comme chaque mercredi, entre 17h30 et 18h, vous avez rendez-vous avec le magazine Lille 1 Info, le magazine consacré à l'université Lille 1, à tout ce qui s'y passe et aussi à ce que font ses partenaires. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'une équipe, hein, l'équipe du pôle MAUD, M-A-U-D, un pôle de compétitivité. Et nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Varlet, qui est le directeur général de cette équipe du pôle MAUD. Bonjour Monsieur Varlet.
Bonjour.
Donc, un pôle de compétitivité qui est dans une zone assez particulière, c'est la Haute-Borne, c'est ça?
Oui, absolument, oui.
Donc effectivement, on va dire que la Haute-Borne cherche à développer tout ce qui est nouvelle technologie, donc forcément amener de la compétitivité. C'est quoi la différence entre la compétitivité grâce aux nouvelles technologies et la compétitivité des grosses entreprises qui cherchent à licencier du personnel pour développer des activités en gagnant davantage d'argent?
Ben justement, ce qu'il faut regarder, c'est les causes. Quelles sont les causes qui font que les grandes entreprises licencient? Je regardais il n'y a pas longtemps une interview d'un grand monsieur qui est capitaine d'industrie, qui est Guillaume de Fougy. Guillaume de Fougière, le patron d'Arc International, qui expliquait que quand il met 18 mois à gagner 20% de compétitivité, en un mois, la Turquie, par la dévaluation de sa monnaie, gagne 15%. Donc, on comprend bien que des grosses entreprises avec énormément de salariés ont des difficultés à lutter, à prospérer, à se développer, donc à développer l'emploi, dès lors que cette compétitivité n'obéit pas à toutes les règles. Enfin, il y a des inégalités entre les différents pays, hein, on le comprend bien. Alors, pour répondre complètement à votre question, en quoi les nouvelles technologies ou les différentes sciences peuvent concourir à ça? Ben, tout simplement parce que n'êtes pas sans ignorer que les pays à bas coût, comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, concurrencent directement les entreprises du pays France, et que la seule démarque par les coûts n'est plus suffisante. Il faut donc imaginer des nouveaux produits, des nouveaux services associés, à l'aide de certaines technologies, qui sont ici, en l'occurrence, au cœur de l'université Lille 1 pour la plupart, puisque plusieurs laboratoires ou l'Institut Chevreul, spécialisé en chimie, la catalyse, etc. Et bien d'autres encore, hein, l'informatique, je pense à l'INRIA, l'IEMN, qui sont tous deux sur la Haute-Borne. C'est concevoir ensemble, donc de manière collaborative, des projets qui vont donner des facteurs différenciants aux entreprises de toute taille, hein, de toute taille. C'est pas simplement réservé aux grosses entreprises, pour prospérer sur les marchés. Parce que uniquement faire le moins cher de moins cher, on arrive à un cul-de-sac que seuls les pays à bas coût peuvent réaliser. Donc nous, il faut être différent, avec des fonctions nouvelles, si possible. Ça demande de reconsidérer le produit ou le service. Et en ça, nous sommes aidés par quelques directives européennes, quelques contraintes européennes qui obligent à faire avec moins de produits chimiques, plus respectueux de l'environnement, etc., etc. Et donc de ces contraintes, on essaye d'en tirer un avantage de manière à être compétitif sur un marché.
Si on comprend bien, ce n'est pas une histoire uniquement de coût de main-d'œuvre ou de rentabilité directe de l'entreprise, c'est aussi s'attaquer peut-être à des marchés de niche et aussi à des secteurs en plein développement. On parle pas mal d'écologie en ce moment, de développement durable. Là, il y a encore des aventures et des beaux projets à monter.
Oui, absolument. Absolument. Ça, c'est un leitmotiv. Aujourd'hui, au sein du Pôle Monde, on mène un projet qui est assez gigantesque. Je veux bien en dire quelques mots. Il s'agit de l'Institut français des matériaux agro-sourcés, avec un industriel et non des moindres. Hein, c'est le troisième leader mondial des amidons et de ses dérivés. Je veux parler de la société Roquette, aux côtés de laquelle se trouvent d'autres entreprises, des PME, plutôt en partie aval sur les usages, ce qu'on aime bien appeler les usages, la filière bâtiment, la filière emballage packaging, la filière industrie graphique également. Et cette dynamique pluridisciplinaire propose au marché l'émergence d'une nouvelle filière des plastiques végétaux. Véritable mutation entre les produits issus du pétrole, et puisque vous en dites un mot, je bien volontiers je me prête à l'exercice. Il s'agit pas forcément de tourner la page demain matin de tous les matériaux d'origine fossile, mais en tout cas, à la lumière de ce que je disais précédemment, les pressions normatives et réglementaires, c'est la possibilité d'imaginer de nouveaux produits performants à partir du végétal. Voilà. Donc, en l'occurrence, à partir de l'amidon qui est contenu dans la fécule de pomme de terre, puisque chimiquement, c'est le produit le plus pur. Je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que l'on m'a rapporté. Et cette dynamique, amont-aval, va de la culture des plantes, des agro-ressources qui sont produits en local, annuellement renouvelables, car évidemment il ne s'agit pas d'affamer la population, hein, qu'on soit bien d'accord, cette contradiction, cette question revient souvent, mais avec l'ensemble des spécialistes, et il y en a beaucoup en région Nord-Pas-de-Calais, je pense à Florimond Després qui est le spécialiste de la génétique des plantes et donc dont la mission sera d'améliorer en permanence les rendements en amidon contenus dans les plantes. Parmi ces plantes, j'ai évoqué la fécule de pomme de terre, mais il peut y avoir des plantes qui dépolluent des sols. Donc on revient à ce que vous évoquiez. Et puis, par une chimie particulière qui s'appelle l'hémisynthèse, qui consiste à greffer des molécules d'amidon sur des molécules pétrosourcées, d'imaginer les plastiques de demain. Il y en a quelques-uns déjà sur certains marchés, avec des grades différents en fonction des usages, puisqu'on ne met pas la même quantité de matière selon qu'on veuille un film, selon qu'on veuille un emballage pour de l'alimentaire, selon qu'on veuille une boîte, selon qu'on veuille une planche de bord d'automobile, par exemple. Voilà.
Donc, un des intérêts, tout, ces produits, c'est qu'ils sont plus facilement dégradables. Bon, alors c'est vrai que les dérivés du pétrole, au départ, le pétrole, c'est une substance, on va dire, quand même naturelle, hein, néanmoins qui s'épuise et dont les effets sur l'environnement sont quand même bien graves en ce moment, on le voit. Hein. Est-ce que ces produits, vous parliez de plantes, on va dire, un peu mutantes, c'est compatible avec les OGM, enfin la lutte contre les OGM?
Oui, non, non, je vous rassure tout de suite, cette dynamique, elle a été, c'est cité dans le dossier, hein, d'ailleurs, puisque ce dossier est candidat aux instituts d'excellence des énergies décarbonées du plan d'investissement d'avenir. Nous aurons une réponse par le Premier ministre en juin. Je vous rassure tout de suite, il est aucunement question d'OGM dans cette manière de concevoir les nouveaux matériaux. C'est bien évident.
Donc, en France, on a pas mal d'universités et des laboratoires de recherche, surtout. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. En quoi vous associez ces laboratoires de recherche, notamment ceux de l'Université Lille 1?
Eh bien, on a conçu ensemble, puisque l'Université de Lille 1 est non seulement un partenaire, un adhérent du Pôle Monde, mais il est aussi fondateur du Pôle, aux côtés de Arc International et de Rocket. En 2004, un bon nombre de laboratoires de l'université sont évidemment présents dans le pôle. Tous les projets qui sonnent à nos portes concernent, selon l'électronique, la chimie, l'état de surface des matériaux, etc. Et donc, à chaque fois, on essaye de rapprocher les entreprises de ces spécialistes dans ces laboratoires pour concevoir et mener à bien ces projets collaboratifs.
Votre équipe est aussi à l'affût des propositions, des appels à concours sur des nouveaux produits ou des nouveaux marchés.
Oui.
Je pense que vous détectez aussi parfois ces informations.
Oui, tout à fait, parce que, bon, soyons clairs, hein, la révolution ne se fera pas en un jour. Que veux-je dire par révolution ? La plupart, les pôles de compétitivité ont été imaginés à la lumière de ce qui existait par ailleurs dans le monde. Je vais prendre un exemple très proche, l'Allemagne, qui a des entreprises qu'on appelle entreprises de taille intermédiaire, qui ont à peu près 1 000-1 500 salariés. Pourquoi elles sont intéressantes ? Ben, tout simplement parce que, à l'intérieur de ces entreprises, existe un département recherche et développement. Il se trouve que c'est prouvé, c'est la taille critique à atteindre pour commencer à faire de la recherche et développement plutôt sérieusement. En France, 96% de nos entreprises sont moins de 20 salariés. Vous voyez à peu près l'écart. Bon. Et il se trouve qu'on ne pourra jamais gagner la partie sur l'échiquier mondial en matière de compétitivité, si on n'associe pas plusieurs entreprises de toute taille dans un projet collaboratif où chacun peut en tirer un bénéfice, que ce soit par l'exploitation d'un brevet, que ce soit par des royalties, etc., enfin, avec en point de mire toujours une seule finalité, c'est le développement de l'emploi et ou la création d'activités sur notre territoire. Hein. C'est bien ça l'objectif final. Voilà.
Donc je suppose que vous avez de nombreuses entreprises qui ont chacune leur spécificité, mais parfois des points communs où elles peuvent éventuellement travailler ensemble.
Oui, et même ça c'est très rigolo, et ça nous arrange bien, parce que ce qui est toujours compliqué dans un projet collaboratif, c'est de mettre deux entreprises qui sont issues d'un même marché, puisque, bon, on ne travaille pas forcément avec son concurrent, c'est bien clair. Mais par contre, récemment, on a réussi à monter des projets collaboratifs avec des entreprises très intéressées par la thématique des biofilms, par exemple, mais qui, au final, leurs produits finaux ne se faisant pas concurrence sur le marché. Puisque du biofilm, on peut en avoir besoin sur le marché de l'agriculture, par exemple, comme on peut en avoir besoin sur le marché de l'agroalimentaire. De toute façon, nous veillons Dès le démarrage du projet, bien sûr, tout ça est verrouillé par des notions de confidentialité, hein, évidentes, mais aussi dans la rédaction du consortium où, à terme, quand le produit innovant sera né, bah, de ne pas se faire concurrence, quoi. Sinon, ça ne marche pas.
Est-ce que des entreprises qui disposent d'unités de recherche, on va dire, ou qui font appel à des unités de recherche, peuvent en commun déposer des brevets, par exemple ?
Oui, absolument, oui, ça existe, oui, tout à fait. Il y a un projet que j'ai en tête, là, qui marche très fort d'ailleurs. On n'est pas encore à la fin, mais on va dire que dans la phase de prototypage, ça marche remarquablement bien. On a réussi, ou plutôt les entreprises ont réussi, puisque nous, au Pôle Mode, nous sommes que des facilitateurs. On permet la rencontre de gens dans un temps record et on a une expertise sur la conduite de projet et sa finalité, et trouver les financements. Mais l'ensemble de ces entreprises ont réussi à mettre au point un tag RFID, par exemple, qui s'imprime directement sur du carton, sans passer par l'étiquette. Alors, ça paraît idiot, mais ne pas imprimer sur une étiquette, c'est faire l'économie de papier, c'est donc faire développement durable, hein, on l'évoquait tout à l'heure, c'est éviter les adhésifs, c'est éviter la contrefaçon, c'est éviter déchirer une étiquette sur un emballage. Et donc, ils ont mis au point un tag RFID qui est complètement invisible et qui permet de tracer un produit, ce qui accroît non seulement la supervision du produit sur toute la chaîne d'approvisionnement, mais qui en plus, côté consommateur, va apporter des conforts supplémentaires, puisque toute l'information pour le consommateur ne cesse de croître, et de plus en plus, on demande aux industriels de réduire la taille des emballages, et quand vous réduisez la taille des emballages, bien évidemment, vous réduisez la surface imprimable de l'emballage. Bon, ce qui est très gênant quand l'information à diffuser ne cesse de s'accroître. Donc voilà une technologie au service d'une application. La rencontre, j'aime bien le dire, de la carpe et du lapin, personne ne l'imaginait il y a encore 2-3 ans. On parlait de technologie RFID, etc. Mais réussir ce type de développement qui peut donner de nouveaux horizons à la filière papier-carton, c'était pas imaginable. Alors, moi, aujourd'hui, je suis très ravi, puisque d'autres pôles de compétitivité avec de grands noms, comme Gemalto, comme ST Microelectronics, enfin les grands professionnels, Taxis, les grands professionnels de l'RFID, manager un projet de traçabilité sur la chaîne logistique là-bas dans le sud de la France et ont demandé à nous rencontrer, puisqu'ils ont vu des articles ici ou là sur ce fameux projet. Et aujourd'hui, on travaille ensemble et c'est en bonne voie pour qu'un jour apparaisse sur les marchés cette possibilité qui va faire gagner de l'argent à plein d'entreprises et va accroître du confort auprès des consommateurs.
Alors, Olivier, parler de toutes ces inventions, toutes ces techniques, ces technologies, comment on les fait connaître et comment on fait reconnaître un pôle qui donc rassemble un certain nombre d'opérateurs capables de développer des projets à grande échelle?
Une des missions d'un pôle de compétitivité, c'est de promouvoir l'action, hein, l'action que nous menons, qui consiste à, par l'exemple, à prouver que nous sommes en mesure de conduire des projets collectivement, hein, à la fois le monde de la recherche applicative et le monde de l'entreprise. Alors, nous, dans notre programme annuel, on a des ateliers thématiques. Il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, ce sont les Mode Business Lab, où on fait rencontrer devant un public composé de chefs d'entreprise, PME, universitaires, le monde de la recherche, etc. On fait témoigner des gens qui sont déjà dans des projets, à n'importe quel stade, pour qu'ils expliquent eux-mêmes comment s'est faite la rencontre, Comment est née l'idée? Comment le Pôle Mode a accompagné cette idée pour en faire un projet? Et comment on a obtenu les financements? Et puis, en fonction du stade où se trouve le projet, ben d'exprimer les difficultés ou les avantages que ça présente pour donner envie d'avoir envie aux gens qui sont là. Voilà. Ça, c'est nous, modestement, on organise ces rencontres-là. Encore une fois, nous sommes des facilitateurs. Celui qui appuie sur le bouton, c'est le chef d'entreprise. Et rien ne se fait s'il n'y a pas la volonté du chef d'entreprise et de ses partenaires, de la recherche notamment.
Un autre moment important pour les entreprises qui inventent, qui créent des objets, des produits, c'est par exemple la rencontre avec les professionnels sur les salons. Est-ce que c'est quelque chose que vous jugez important?
Oui, alors, bon, les salons... Nous, notre métier, ça ne consiste pas à vendre à la place des entreprises, soyons clairs. Par contre, des salons qui font de la promotion d'innovation, au sens large, qui font la promotion du travail collaboratif, qui font la promotion de nouvelles technologies. Alors là, oui, ça nous regarde. Les salons... J'en ai un à l'esprit, le 17 mai à Düsseldorf, Interpack, tous les professionnels de l'emballage s'y rencontrent avec des univers différents, les machines, les nouveaux objets, les nouveaux emballages. On essaye d'aider, on fait la promotion de cet événement auprès de nos adhérents et puis... en lien avec des partenaires comme la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille et d'autres, on essaye d'accompagner ces entreprises. C'est pas gratuit, hein, les entreprises payent, mais pour les accompagner et avoir un plan de visite sur des sujets extrêmement précis pour pouvoir rapporter de la matière, c'est un peu aussi une certaine manière de faire de la veille, quoi.
Alors c'est vrai qu'il y a de grands salons professionnels en Europe et bien sûr ailleurs dans le monde. Je pense à Francfort par exemple ou d'autres grandes villes. Est-ce que Lille est dotée d'un salon qui serait capable de fédérer, de rassembler des créateurs ou des créatifs qui proposent des produits, des solutions, de nouvelles technologies? Bref, est-ce que Lille a un salon de la nouvelle technologie, des nouvelles technologies?
Alors, à ma connaissance, non. Par contre, si la question est-ce que Lille a la capacité d'organiser ce type de salon, la réponse est oui. J'en veux pour preuve que sur la création d'entreprises, ça a été un véritable succès. Et je pense que le chemin à parcourir entre création d'entreprises et création d'entreprises innovantes et ou panorama d'innovation qui existe... ici en métropole, c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, la semaine de l'innovation qui a eu lieu a été un petit apéritif là par rapport à ce qu'on pourrait faire.
Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a le salon Je Crée par exemple, mais après il y a d'autres types. On pourrait imaginer un événement international qui pourrait se faire à Lille. Ce serait peut-être l'occasion maintenant qu'on a facilité ou suscité le développement de nouvelles entreprises dans ce domaine. Peut-être ce serait l'étape suivante.
Oui, absolument, je suis bien d'accord avec vous. Il y a d'ailleurs déjà une première étape de franchie, puisque au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, il existe un espace qui permet de faire la promotion de la région. Alors, j'ai oublié son nom là tout de suite, mais il s'agit d'un espace qui permet de faire la promotion du territoire, de ses accès, des masses critiques d'acteurs, dont la recherche, les universités, etc., pour faire la promotion de la région et puis en quelque sorte favoriser l'exogène, c'est-à-dire faire venir des entreprises.
Ça c'est juste à côté du conseil régional, mais c'est un lieu un peu statique, on va dire. Un salon, ça a quelque chose de plus dynamique et surtout d'échange.
Oui, c'est vrai. Bon, après il faut regarder le contenu de ce type de salon. Très honnêtement, les gens qui innovent n'aiment pas beaucoup parler de leur innovation, hein. Entre nous, montrer quelque chose qui est fini, montrer une finalité, c'est jamais un problème, surtout quand il y a un marché prêt à acheter en face. Par contre, expliquer le comment, c'est beaucoup plus délicat. C'est la raison pour laquelle je vous expliquais tout à l'heure, on travaille sous accord de confidentialité, c'est obligatoire.
Alors, Olivier Varlet, dans la région, il y a des pôles de nouvelles technologies, hein, plusieurs. Est-ce qu'il y a plusieurs pôles de compétitivité ? On les retrouve dans quel secteur ?
Oui, absolument. Ben, nous sommes sept. Donc, il y a le pôle textile matériaux qui s'appelle le pôle Uptex. Il y a le pôle nutrition santé longévité dans la galaxie Eura Santé. Mon ami Étienne Vervac qui pilote ça. Il y a le pôle Team 2 sur tous les aspects recyclage, les sédiments, etc. Mais aussi donner une seconde vie aux matériaux qui se trouvent là-bas à Los Angeles. Il existe le pôle Aquimer, hein, sur la filière produits aquatiques. Il y a, alors si j'oublie quelqu'un, là, ça ne va pas le faire à la radio. Hein. Donc, donc j'ai dit Aquimer, NSL, Uptex, le pôle Team 2, le pôle Picom, oui, le pôle industrie du commerce, donc la galaxie Auchan et toutes les PME qui travaillent à ses côtés. Qui ai-je oublié? Maud, ça fait 6, et le septième. Ah, dites donc, là j'ai un trou. Hein. Ça va me revenir.
C'est pas grave. Donc, est-ce que ces pôles qui sont dans des domaines un peu différents, bien sûr, ont des moments de, j'allais dire, de pas de synthèse, mais des moments où ils se rassemblent pour discuter stratégie?
C'est une bonne question. On va dire que sur des projets, parfois, il y a des zones de chevauchement qui fait qu'on, c'est inévitable, il faut qu'on travaille ensemble. Et d'ailleurs, on se fait pas mal. Hein. Je pense que c'est ultra nécessaire de travailler ensemble. Ça, c'est dans le cadre des projets. Il y a effectivement des rendez-vous entre patrons de pôle. On se force à le faire une fois par mois pour réfléchir et travailler sur des sujets qui nous concernent tous. Par exemple, en ce moment, on a de très grandes préoccupations sur le devenir des pôles, puisque en matière de crédit d'animation, c'est un petit peu compliqué. L'État demandant au pôle de compétitivité de générer 50% de sa maquette en part privée. Mmh. Bon, et ça, je vous avouerai qu'il n'y a personne qui sait comment prendre par quel bout prendre cette chose-là. Ça nous préoccupe beaucoup, mais bon, on verra. Il y a des réunions de prévues à Bercy pour réfléchir à la fois sur les services qu'on pourrait rendre auprès des entreprises. Faut-il en enlever? Faut-il en rajouter? Bon, c'est très compliqué. Ça préoccupe tout le monde. La baisse des fonds, des crédits qui financent les projets, c'est pareil, ça fond un peu comme neige au soleil, ça préoccupe. Les nouvelles dispositions après 2013 au niveau des fonds européens, ça préoccupe. Bon, bref, voilà au moins des sujets qui nous réunissent. Je défends une idée, c'est que si les pôles de compétitivité génèrent de l'emploi au final, il s'agit donc d'intérêt général. Il faut donc sauvegarder ces usines à projet.
Monsieur Varlet, je vous remercie.
Merci à vous.
Thank you.